présente
14-18.
Qu'est-ce t'en sais ?
100 ans nous séparent de la fin de la Grande Guerre. Les troisièmes du collège de la Viadaine à Saint-Amand-Déco nous la racontent à leur façon.
Bonjour, alors nous allons vous parler des armes, donc de l'artillerie puis de l'infanterie.
Je vais commencer par parler des premiers sous-marins. Les premiers sous-marins sont apparus en 1901, utilisés à la Première Guerre mondiale dans les deux camps. Ils tiraient sur des bateaux ennemis à l'aide de torpilles. À la surface, ils tiraient au canon. Ils servaient aussi à terroriser l'ennemi grâce à leur immense taille et à leur armement très impressionnant.
La Grosse Bertha. La Grosse Bertha est l'obusier le plus célèbre de cette guerre. Inventée en août 1914 par les Allemands, elle était capable de tirer des obus à une distance de 100 km.
Les chars. Les chars ont été inventés en septembre 1916 par les Britanniques pour combattre les Allemands. 4 hommes sont nécessaires pour faire fonctionner le canon et la mitrailleuse.
Mais dis-moi Lucas, qu'est-ce que la mitrailleuse ?
Eh bien, la mitrailleuse est apparue en 1861. Inventée par les Américains, elle a une portée plus longue qu'un fusil et une cadence de tir de 600 coups par minute.
Ensuite, je vais vous parler du lance-flamme. Donc le lance-flamme est apparu en 1914 du côté allemand, dangereux même pour ceux qui l'utilisent à cause de sa bonbonne de pétrole qui peut exploser.
14-18.
Qu'est-ce t'en sais ?
L'équipement du soldat. Au début de la guerre, les soldats appelés poilus portaient encore l'uniforme napoléonien de 1829. Il était composé d'un pantalon rouge et d'un képi en feutre. Leur costume de guerre était inadapté, voyant à cause de leur couleur et inconfortable. Ils avaient un sac à dos surnommé Barda.
Ils le remplissaient de nourriture, d'outils pour creuser les tranchées. Ce sac était-il lourd ?
Oui, plutôt. Il pouvait peser jusqu'à 30 kilos.
Le type de chaussures utilisées est appelé brodequin. Ils sont en cuir et sont lourds. Ils ont aussi des revolvers et des fusils qui pesaient plus de 4 kilos, ce qui constitue un équipement très pesant au total.
14-18, qu'est-ce t'en sais ?
Bonjour les auditeurs, Edouard et Léo pour vous parler des animaux de la guerre.
Les chiens, les pigeons, les chevaux, mais aussi l'éléphant de Jenny.
Environ 100 000 chiens ont été utiles par les différents belligérants durant le conflit. De fonction habituelle, mascotte d'une unité ou chien ratier, ils serviront également de facteurs pour transmettre des messages. L'armée belge les utilisera aussi pour tracter des mitrailleuses, pour tirer des lignes de téléphonie entre les tranchées ou repérer les blessés sur le champ de bataille.
Et les pigeons alors ?
Les pigeons de l'armée française pendant la Première Guerre mondiale furent des pigeons voyageurs utilisés pour communiquer sur le front.
Les chevaux ont servi pour tirer des chars, des provisions, des armes lourdes, mais aussi des soldats vivants, blessés ou morts.
Mais pourquoi une éléphante ?
C'est une éléphante et elle s'appelle Jenny. L'éléphante a été employée par les Allemands dans le nord de la France en 1915-1916. Elle a été utilisée pour tirer les chars sur le front.
Mais d'où vient-elle ?
Elle vient d'Asie, importée par les Avesnois à la gare d'Avesnes. Et à la fin de son service, elle retourne dans un zoo.
14-18. Bonjour, nous allons vous parler de l'artillerie allemande. L'artillerie, c'est les armes comme les canons, les mortiers ou encore les obus. L'Empire allemand est en 1914 une puissance de premier ordre. Il dispose d'une industrie de l'armement puissante et moderne.
En août 1914, l'artillerie légère comporte 8000 pièces. Elle est composée de canons de campagne de 77 mm et d'obusiers de 10 cm. L'artillerie lourde comporte 500 pièces. Elle est composée de canons de longue portée, des obusiers lourds et des mortiers hyper lourds de calibre 42 mm.
Les Allemands, à cause de la durée de la guerre, improvisent des pièces lourdes sur la base d'armes de récupération. La Grosse Bertha est un canon de 420 mm. C'est l'une des armes les plus puissantes du côté allemand. De février à juillet 1918, elle a servi à bombarder Paris.
La bataille de Verdun. Cette bataille est l'une des plus connues de la Première Guerre mondiale. Celle-ci a duré 11 mois, du 21 février au 18 décembre 1916. Mais où s'est-elle passée ? Elle s'est déroulée en Lorraine, près de la ville de Verdun, d'où son nom.
Ce sont plus d'1 140 000 soldats français et 1 250 000 allemands qui participeront à cette bataille. Côté artillerie, les Français alignent 1985 pièces face à 3 457 pièces allemandes. Le seul premier jour, ce sont plus d'1 million d'obus allemands qui ont bombardé les Français.
Mais sur les 3 millions de soldats mobilisés, ce sont plus de 300 000 morts et 400 000 prisonniers ou blessés de guerre. Il y a eu 30 millions d'obus tirés par les Allemands et 23 millions tirés par les Français. Cette bataille se finit sur une victoire franco-britannique.
14-18.
Qu'est-ce t'en sais ?
Premier jour de mobilisation générale. Hier matin, j'ai pris la résolution d'agir en français. Je rendais mes cartons à la musique quand je me suis retourné machinalement sur la ville. La cathédrale vivait. Extrait d'une lettre de Maurice Maréchal, écrite le samedi 1er août 1914. Dans cet extrait, nous pouvons voir l'insouciance de ce soldat. Il a l'air décontracté et joyeux. Il pense que cette guerre sera de courte durée. Ainsi, il pourra vite retrouver sa femme, sa famille, sa ville et sa musique. À mon petit Armand, tu es encore bien jeune et ne peux comprendre ce qui se passe en ce moment. La guerre, ses horreurs, ses souffrances. Cette carte sera un souvenir de ton père et il souhaite qu'à l'avenir, les hommes soient meilleurs et que semblables choses ne puissent arriver. Que jamais tu n'aies besoin de, et sois forcé, de mener la vie que je subis en ce moment, en compagnie de beaucoup de papas qui ont laissé comme moi des petits anges chez eux. Extrait d'une lettre de Joseph Thomas destinée à son fils de 15 mois, écrite le 5 août 1915. Dans ce second extrait, nous ressentons la tristesse de ce père soldat. Nous pouvons aussi constater à travers ces mots les ravages de la guerre, l'insouciance et la joie ont disparu et ce sont l'horreur et la tristesse qui dominent à présent.
Courte pause musicale. Georges Brassens, La guerre 14-18.
Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerres notoires, si j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Est-ce à dire que je méprise les nobles guerres de jadis, que je me soucie comme d'une cerise de celle de 70? Au contraire, je la révère et lui donne un satisfait. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Je sais que les guerriers de Sparte plantaient pas leurs épées dans l'eau, que les grognards de Bonaparte tiraient pas leur poudre aux moineaux. Leurs faits d'armes sont légendaires, au garde à vous je les félicite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Bien sûr, celle de l'an 40 ne m'a pas tout à fait déçu. Elle fut longue et massacrante, et je ne crache pas dessus. Mais à mon sens, elle ne vaut guère, guère plus qu'un premier accessite. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mon but n'est pas de chercher noise aux guérillas, non fichtre non. Guerre sainte, guerre sournoise, qui n'ose pas dire leur nom. Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Du fond de son sac à malice, Mars va sans doute à l'occasion en sortir une vraie délice qui me fera grosse impression. En attendant, je persévère à dire que ma guerre favorite, celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. Celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18.
Qu'est-ce
t'en sais ?
Bonjour, nous allons vous parler des tranchées lors de la Première Guerre mondiale, non pas des conditions de vie mais de comment elles étaient élaborées. Et comment elles étaient les tranchées ?
Les tranchées étaient profondes d'en moyenne 3 mètres et longues d'environ 50 à 80 mètres et creusées en zigzag pour éviter les tirs en enfilade. Par contre, je ne sais pas à quoi elles ressemblaient.
Elles ressemblaient à des boyaux et elles formaient des lignes.
Mais comment elles étaient ces lignes ?
La première ligne, c'est là où les soldats montaient au front, et la deuxième, c'est là où les soldats dormaient, se restauraient et se faisaient soigner. Par-delà, la deuxième ligne était postée des canons. Par contre, je n'ai aucune idée de ce qu'il y avait entre les deux tranchées ennemies.
Ça, c'est facile. Il y avait le No Man's Land, couvert de barbelés, où se déroulaient les combats.
Et comment elles étaient creusées, ces tranchées ?
Elles étaient creusées avec des pelles et des pioches, par les soldats. C'est bien beau tout ça, mais c'était quoi le but des tranchées ?
Lors des batailles, le but était de gagner du terrain et de faire avancer les tranchées. C'est pour ça que quelques mètres étaient décisifs sur la bataille. Mais elles servaient surtout pour se cacher et se protéger. Et les blessés, comment ils faisaient ?
Ils allaient dans des sous-sols, des tranchées, où se trouvaient des dortoirs, des réfectoires et aussi des infirmeries. Mais il ne reste pas des traces des combats ?
Si, actuellement, il reste encore des tranchées, des gourbis, autrement dit, là où vivaient les soldats, des cagnas où ils s'abritaient et des trous d'obus marmites, dans certains lieux où se sont déroulés des combats.
Merci de nous avoir écoutés, c'était Camille Exélian sur RTR.
Les conditions de vie dans les tranchées. La vie au quotidien dans les tranchées est très difficile. Nuit et jour, il faut être au travail, prêt à attaquer l'ennemi à tout moment. Les soldats vivent dans le froid. Certains sont évacués, car leurs doigts ou leurs orteils tombent et tellement ils étaient gelés. Par jour, ils ne dorment que 2 ou 3 heures, du moins ils essayent. Le froid, le manque de nourriture était insupportable. Pour tenter d'égayer la chose, les soldats jouent de la musique avec des harmonicas. Ils chantent des chansons d'avant la guerre comme La Butte Rouge. Voici un extrait.
La Butte Rouge, c'est son nom. Le baptême se fit un matin où tous ceux qui montaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, à des vignes, il y pousse du raisin. Qui boira ce vin-là, boira le sang des copains.
14-18.
Parlons des infirmières. Il existait plusieurs catégories d'infirmières. En tout, 68 000 femmes et hommes médecins ont été mobilisés pendant la guerre 14-18. Les infirmières étaient appelées les anges blancs. Les premiers secours, les postes de secours, à votre avis, comment étaient-ils ? Dans les premières semaines de la guerre, les soins étaient quasi inexistants. Les postes de secours étaient plus ou moins de bonne qualité. Certains étaient bien équipés pour soigner les soldats et d'autres en étaient bien loin. Les blessés à prendre en charge en urgence au milieu des tranchées étaient dans des conditions sanitaires très difficiles. Les postes de secours se trouvaient en deuxième ligne. Beaucoup de soldats auraient pu être sauvés s'ils avaient reçu en temps voulu les soins appropriés. Mais il s'écoulait souvent une longue période entre le moment où le soldat était blessé et celui où il recevait les premiers soins. Voilà ce que je voulais dire. C'était Estelle.
Bonjour, nous sommes Florine
et Elodie.
Elodie, pourquoi on ne parlerait pas des femmes pendant la Première Guerre mondiale ?
Pourquoi pas ? Si les hommes ont été les héros du front, les femmes ont été les héroïnes de l'arrière.
Et alors, Elodie, qu'est-ce qui se passait à l'arrière ?
Eh bien, les femmes ne faisaient pas qu'écrire à leurs proches du front. Elles étaient parfois désignées marraines de guerre pour rendre visite aux blessés des hôpitaux et envoyer des lettres ou des colis aux soldats qui n'avaient pas de famille. Elles ont aussi joué un rôle important comme elles ne l'avaient jamais eu auparavant dans le monde du travail. Florine, comment les femmes travaillaient-elles à cette époque ?
Alors, dès le 7 août 1914, le président du conseil, René Viviani, demande aux femmes d'aller en ville pour distribuer le courrier, conduire les tramways, travailler plus de 10 heures par jour dans les usines d'armement pour fournir des munitions aux hommes du front. Elles tenaient aussi les commerces et remplaçaient les artisans.
Et en campagne, que faisaient-elles ?
En campagne, elles s'occupaient des fermes et des cultures. Elles faisaient ce que leurs maris, fils, frères ou pères absents ne pouvaient pas faire. Certaines étaient aussi infirmières dans les hôpitaux militaires.
Donc avec tout ceci, on ne peut pas dire qu'elles n'avaient pas leur importance dans cette guerre. Malgré tout cela, elles n'ont pas réussi à faire leurs preuves et sont retournées à leur rôle de femme, fille pour la plupart.
Tu as oublié de dire qu'elles ont obtenu le droit de vote seulement en 1944 et le droit d'ouvrir un compte en banque en 1965.
On espère qu'on vous aura appris des choses
et on vous laisse avec la suite.
Je vais vous lire une lettre du caporal Henri Floch. Ma bien chère Lucie, quand cette lettre te parviendra, je serai mort, fusillé. Voici pourquoi. Le 27 novembre, vers 5h du soir, après un violent bombardement de 2h dans une tranchée de première ligne, alors que nous finissions la soupe, les Allemands se sont emmenés dans la tranchée, m'ont fait prisonnier avec deux autres de mes camarades. J'ai profité d'un moment de bousculade pour m'échapper. J'ai suivi mes camarades. Ensuite, j'ai été accusé d'abandon de poste en présence de l'ennemi. Nous sommes passés 24 hier soir au conseil de guerre. 6 ont été condamnés à mort, dont moi. Je ne suis pas plus coupable que les autres. Je meurs innocent du crime d'abandon de poste qui m'est reproché. Si au lieu de m'échapper des Allemands, j'étais resté prisonnier, j'aurais encore la vie sauve. C'est la fatalité. Ma dernière pensée, à toi jusqu'au bout. Henri Floch est l'un des nombreux soldats exécutés non pas par l'ennemi, mais par sa patrie.
Merci aux élèves du collège de la Viadène à Saint-Amand-des-Caux pour cette émission commémorative de la Première Guerre mondiale. Merci aussi à leurs enseignants. Retrouvez cette émission en podcast sur radiotemps.com et sur le compte SoundCloud de la radio.